On a beaucoup jasé de cette guerre économique avec les États-Unis ce matin à l'émission, entre autres avec l'analyste politique Marc-André Leclerc. On a décortiqué le côté économique de la chose avec Gabriel Giguère de l'Institut économique de Montréal. On va en ajouter une petite couche dans les prochaines minutes, une jasette avec le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, qui est au bout du fil. Monsieur Blanchet, bon matin.
Bien le bonjour.
Merci d'être avec nous, toujours très apprécié, M. Blanchet. Est-ce que ça a été une grosse fin de semaine pour vous?
Ça a été une très grosse fin de semaine. J'étais dans Charlevoix, d'ailleurs, pour des rencontres dont le ton et dont les préoccupations ont beaucoup changé à partir du moment où M. Trump allait de l'avant avec des menaces qui apparaissaient tout à fait irrationnelles et très, très chaotiques, mais il le fait pour vrai. À l'heure actuelle, on est... Tant les médias américains qui citent tout le monde dit mais pourquoi il fait ça? Quand tu dis, hey, on va s'en aller dans le mur, je vous amène avec moi dans le mur, tu t'attends à ce qu'à la dernière minute, il freine ou il tourne. Mais non, il y est allé. Et là, on doit comprendre comment ça marche dans son monde à lui, essayer de s'adapter le plus possible à court terme, mais aussi à plus long terme.
Monsieur Blanchet, est-ce que vous êtes satisfait de la réplique du Canada et du Québec au tarif de Donald Trump?
C'est très immédiat, dans le sens où tu réponds à des tarifs par des tarifs. C'est la procédure normale. Ne rien faire parce que ça aura un effet inflationniste de ce côté ici de la frontière aurait simplement donné le signal à la Maison-Blanche de Donald Trump qui peut continuer à dévorer tout ce qu'il y a autour de lui parce qu'il y a vraiment une attitude de prédateur et il faut au moins essayer de tracer une ligne. Il va aussi falloir simplement gagner du temps parce que c'est une guerre dollar pour dollar, ultimement, qu'on ne gagnerait pas, même si j'aime pas le mot guerre, mais c'est une tension commerciale majeure où on risquerait de pas sortir gagnant. Je trouve que l'approche d'aller cibler les États américains, républicains et les produits dont les lobbies vont remonter le plus rapidement à la Maison-Blanche, au président Trump, pour dire tes politiques nous font mal à nous-mêmes aux États-Unis et sur le moyen terme, qu'on parle de bois ou qu'on parle d'aluminium ou qu'on parle de plusieurs autres secteurs qui transitent beaucoup d'un côté à l'autre de la frontière, l'impact économique aux États-Unis va être assez grave. L'impact sur l'inflation aux États-Unis est per capita. Il y a beaucoup plus de gens pauvres aux États-Unis qu'il y en a au Québec ou au Canada. Mm-hmm. Ces gens-là vont beaucoup souffrir et ça va remonter. Et ça va être exprimé. Donc la pression politique va exister des deux côtés de la frontière. La première réponse est bonne. La suite, faut voir. Le grand livre fait ses propositions, évidemment. Des investissements publics, oui, c'est une bonne chose. Des investissements publics dans le pétrole, c'est pas une bonne chose parce que l'augmentation des exportations de pétrole va augmenter la valeur du dollar canadien et va limiter les exportations de produits finis, exemple de la bourse. C'est les gens qui vont le plus souffrir dans le sud du Québec, mm-hmm. les politiques de Donald Trump, c'est d'abord les gens de la Beauce, la rive sud de Québec, des grands secteurs industriels ou d'une politique pétrolière, c'est la même chose. Augmenter la valeur du dollar réduit les exportations de notre secteur industriel, de petites et moyennes entreprises qui fait la richesse économique, justement, de Québec, de la rive sud de Québec, de la région de Drummondville, de la région de Joliette, des endroits comme ça qui se sont construits autour du libre-échange.
Parlant de la suite des choses, le chef du Parti conservateur du Canada, Pierre Poilievre, dans les dernières minutes, a dévoilé les grandes lignes de son plan, le Canada d'abord. Et en gros, puis je sais pas si vous avez pris le temps d'en prendre connaissance, là, comme je dis, c'est sorti vraiment dans les dernières minutes, mais en gros, son plan, c'est le libre-échange entre les provinces du Canada, là, tout ce qui est frontières, tout ce qui est règlement pour complexifier les échanges entre différentes provinces. On réunit les premiers ministres, puis on laisse tomber ça. Êtes-vous d'accord avec cette grande ligne-là?
Outre la caricature, oui, ça fait, il n'est pas le premier à le dire. Dans les grandes pistes de solutions, il y a la diversification des marchés. Le Canada, donc le Québec, sont parties prenantes à un traité de libre-échange avec l'Asie et avec un traité de libre-échange avec l'Europe, dont les États-Unis font pas partie. On a donc un accès privilégié à des marchés étrangers où les Américains sont pas très forts, puis même où les gens disent « on n'est pas sûr qu'on veut davantage faire d'affaires avec les Américains à court terme ». Mais outre ça, il y a en effet plus de restrictions au commerce entre le Québec et les provinces canadiennes que entre le Québec et les États-Unis en temps normal. Donc, de baisser les restrictions dans le commerce interprovincial est une bonne idée que M. Poilievre vient peut-être d'avoir, mais ça, c'est longtemps après tout le monde, parce que ça fait un bon moment que ça fait partie des conversations, comme les marchés internationaux, comme les investissements dans des infrastructures publiques. Théorie économique de base, l'État prend un peu le relais, mais dans des investissements qui seront des actifs de l'État plutôt que des dépenses à proprement parler. C'est les règles de base pour maintenir le niveau d'emploi. Il faut aussi s'assurer que le pouvoir d'achat des gens qui font vivre les entreprises québécoises et canadiennes soient protégées. Ça, ça peut demander des modifications à l'assurance-emploi. Ça peut demander des modifications à comment on traite nos retraités pour préserver le pouvoir d'achat des gens qui dépensent immédiatement leur argent, contrairement aux riches qui, eux, vont coller leur argent selon les circonstances.
Monsieur Blanchet, vous êtes un parti indépendantiste au niveau de la Chambre des communes d'Ottawa. Comment le Québec se débrouillerait mieux s'il était souverain aujourd'hui face à ses tarifs?
Il est probable que sur des grands enjeux, on aurait de toute manière une forme d'alliance avec le voisin canadien. Comme le voisin canadien et nous devons maintenant travailler fortement à avoir une alliance avec le Mexique. Les gens qui ont des intérêts convergents s'entendent librement entre égaux. C'est normal en termes économiques que tu sois souverain ou que tu sois pas souverain. Le Québec a des arguments à mettre dans la balance, que ce soit les ressources naturelles, que ce soit l'aluminium, que ce soit les mines, que ce soit le bois, que ce soit la haute technologie dans l'intelligence artificielle où le Québec est reconnu mondialement, ou l'aéronautique où le Québec est un partenaire incontournable pour bien des gens, dont en particulier les Américains. Le Québec a des forces exceptionnelles à mettre sur la table dans une négociation. Tu veux avoir accès à ce que nous, on a à offrir, ben, tu ne dois pas augmenter les restrictions sur ton marché américain. Une autre des réponses possibles qui a été soulevée par le premier ministre du Québec, c'est de dire, écoutez, les États-Unis ont ce qu'ils appellent le Buy American Act, qui fait en sorte que tu ne peux pas avoir accès comme entreprise québécoise ou canadienne aux contrats publics aux États-Unis. C'est très restrictif. Mais nous, on n'a jamais fait la même chose. Combien de fois le Bloc a demandé qu'on oblige des entreprises qui veulent avoir des contrats publics au Canada ou au Québec à avoir une obligation de contenu canadien dans l'appel d'offres? Et ça, on n'avait jamais fait ça. C'est une excellente idée à mettre sur la table parce que ça favorise justement que davantage d'entreprises aient un marché local, un marché domestique et soient moins dépendantes du marché américain.
Monsieur Blanchet, êtes-vous dans une situation, je veux dire, délicate en ce moment? Puis je pourrais poser la même question aux conservateurs, au NPD aussi, mais c'est à vous qu'on jase ce matin. Position délicate parce qu'on voudrait, et habituellement, on critiquerait ou questionnerait le gouvernement libéral, mais en ce moment, c'est un peu plus difficile parce qu'on veut projeter l'image solidaire canadien en ce moment pour justement pas montrer de faiblesse à l'administration Trump?
L'intérêt du Québec et les dossiers du Québec sont toujours ce qui nous anime. Puis bien souvent, le gouvernement canadien ou les partis fédéralistes canadiens vont favoriser, dans le cas des libéraux, l'Ontario et les banques de Toronto, dans le cas des conservateurs, le pétrole de l'Ouest. Nous, on a à cœur ce qui est les caractéristiques du Québec dans le cas présent puis à court terme. Oui, il est pertinent d'avoir un front commun Québec-Canada-Mexique par rapport aux États-Unis et on s'inscrit là-dedans sans hésiter. Mais on insiste aussi sur le fait que dans les discussions, j'étais encore en conversation avec d'autres personnes hier, là, mais on a eu une conversation avec le premier ministre, et il faudra que dans les tribunes et dans les panels de discussion et de négociation, le Québec a une place qui soit proportionnelle à son poids dans l'économie canadienne. Sinon, les intérêts économiques du Québec vont passer deuxième. Et je suis rarement celui qui donne des coups de poing sans temps pour faire valoir nos points de vue. Donc, à l'heure actuelle, j'ai pas besoin de changer de ton. Ouais. Voici les recommandations, voici la lecture qu'on fait. Un pas de recul, analysons, faisons un diagnostic. On connaît pas les changements des habitudes de consommation des gens. Il y a des choses qui sont encore difficiles à chiffrer. Que ça nous tente ou pas, ou qu'on soit impatient ou qu'on ne soit pas là. Donc, on doit faire une analyse. Moi, ces temps-ci, c'est de parler à des experts, c'est de faire des lectures qui vont nous préparer le mieux possible pour soutenir les meilleures démarches possibles. Et ça passe pas par un rappel immédiat du Parlement. Il ne saurait pas quoi faire, il ne saurait pas comment s'adapter à une situation dont la lecture n'est pas complète, dont on ne connaît pas ou très peu les effets aujourd'hui. Donc, rappeler le Parlement pour faire une joute partisane qui aura pour effet essentiellement de permettre aux conservateurs d'exister, parce que dans le contexte actuel, ils ont beaucoup de difficultés à s'imposer dans l'espace média, ou même chose pour le NPD, c'est pas la meilleure manière de servir les gens. Par contre, une élection rapide pourrait l'être, parce que la négociation va commencer bien avant 2026, puis elle va durer plusieurs mois, au moins un an. Tu ne veux pas changer de négociateur au milieu d'une négociation. Donc, qui que ce soit qui gagne l'élection, il faut qu'elle soit rapide pour que quelqu'un ait un mandat de négocier pendant tout le temps que ça prendra et ne pas changer de négociateur. Tu ne changes pas d'avion au-dessus de l'océan. Là.
Mm-hmm. Je reviens sur le Québec. Comment vous avez trouvé le positionnement et les actions du premier ministre François Legault? Êtes-vous satisfait?
Il fait ce qui doit être fait dans la position du Québec. Autrement dit, le Québec ne peut pas aller négocier directement à Washington. On est pogné, c'est plate, mais on est pogné pour négocier par l'entremise du gouvernement canadien. Il y a des choses qu'on peut faire. On peut aller faire des représentations. Il a pour projet d'aller aux États-Unis, moi aussi d'ailleurs, d'aller rencontrer les gens dans les secteurs clés pour l'économie québécoise, pour leur dire, écoutez, vous avez également besoin de nous. Faites monter le message jusqu'à la Maison-Blanche. Ça, c'est correct. L'augmentation des contrats publics, utiliser les plans d'investissement d'Hydro-Québec qui sont des placements et qui passent par l'entremise d'une société d'État avec un impact beaucoup moins important sur les finances publiques de l'État québécois. Il y a des gestes qui sont posés, qui sont plus efficaces que créatifs. On n'invente pas, mais il faut les mettre en place. Voyons voir comment l'Assemblée nationale réagira à ça. Mais j'ai vu passer quelques idées qui m'apparaissaient intéressantes.
Monsieur Blanchet, j'ai posé la même question un petit peu plus tôt à l'émission à notre analyste politique, Marc-André Leclerc. Est-ce que la situation du fentanyl à nos frontières et qui traverse nos frontières, selon l'administration Trump, est-ce que ça vaut ce qui se passe en ce moment, cette guerre économique et tout ce qui a été annoncé par Donald Trump samedi?
C'est le système américain qui impose ça. Le président des États-Unis n'a pas l'autorité pour imposer des tarifs à des partenaires commerciaux, strictement à des fins économiques. Il faut, s'il veut y aller par décret, par décision unilatérale du président et non en passant par le Sénat, qu'il ne contrôle pas à 60%, c'est ce que ça lui prendrait. Il doit dire qu'il y a un enjeu de sécurité nationale. Il a donc pris le prétexte des frontières et du fentanyl, dont le Canada ne représenterait dans les entrées aux États-Unis qu'une fraction de 1%. Il a pris ça comme prétexte pour dire que c'est la sécurité nationale des États-Unis qui est en jeu. Je vous impose des tarifs. Le but étant de forcer une négociation rapide et avantageuse pour les États-Unis en affaiblissant le Canada et le Mexique, mais aussi d'inciter les entreprises à aller s'installer aux États-Unis plutôt que de s'installer au Canada ou au Mexique, comme ça s'est normalement produit au cours des récentes années à l'occasion.
En terminant, M. Blanchet, quelles sont vos attentes envers Justin Trudeau pour sa rencontre ce matin avec Donald Trump?
Bon, je pense qu'il va... Il devait parler à Donald Trump pour dire qu'il avait parlé à Donald Trump, parce qu'il a admis que M. Trump ne retournait pas les appels depuis sa nomination. Mm-hmm. Donc, c'est un peu embêtant, c'est un peu humiliant pour le premier ministre du Canada. Maintenant, il va se faire des menaces. Puis, peut-être même que M. Trump va se vanter dans les réseaux d'avoir mis Justin Trudeau à sa place. Puis, il n'y aura pas de négociation comme telle, parce que l'approche de Donald Trump est une approche de prédateur. Il va essayer d'affaiblir, d'intimider, d'agresser autant que possible son interlocuteur, encore pendant un bon moment. Parce que quoi que ce soit que le Canada réussirait par rapport au fentanyl, qui est bien davantage un enjeu de l'Ouest canadien que du Québec, quoi que ce soit qu'il réussirait à cet égard-là, ou en termes de frontières, où c'est illogique parce que le Canada n'a pas à empêcher des gens de rentrer aux États-Unis. C'est les douaniers américains qui font ça. Nous, notre travail, c'est de contrôler ceux qui entrent sur le territoire québécois ou le territoire canadien. Donc, quoi que ce soit qu'on fasse ou qu'on réussisse, ça ne satisfera pas le président Trump parce que sa réelle intention, c'est une intention à caractère commercial puis pour ramener des entreprises aux États-Unis. Et pour faire ça, il se trouve à menacer le relatif équilibre commercial de l'ensemble de l'Occident. Et ceux qui sont contents ce matin et qui célèbrent, c'est la Chine, c'est l'Inde, c'est l'Iran et c'est la Russie.
Ouais. Yves-François Blanchet, chef du Bloc québécois. Monsieur Blanchet, toujours très apprécié à Rage Against le matin, nos discussions. Merci encore pour votre temps ce matin.
Merci, au plaisir.
Merci, à bientôt. Salut. Yves-François Blanchet, toujours, là, on a vraiment trois sphères, si on veut, de toute cette situation-là. Un politicien qui a les deux mains dedans, là, qui est sur le terrain là, par rapport à cette guerre économique. Un petit peu plus tôt, et c'est disponible sur le blvd.fm, là, discussion avec Marc-André Leclerc, analyste politique, et analyste économique Gabriel Giguère.
Oui, puis ce que je retiens des trois discussions qu'on vient d'avoir, c'est qu'il y a plusieurs points de similitude. Le premier, c'est qu'on n'avait pas le choix de répliquer avec des tarifs. Tout le monde a conscience, que ce soit un chroniqueur politique, Yves-François Blanchet, le chef du Bloc, ou Gabriel Giguère, un économiste, que c'est pas une solution à long terme.
Ouais.
Mais t'as pas le choix. Quand t'es attaqué comme ça,
tu répliques. T'sais, François Blanchet l'a bien imagé à la fin en disant Donald Trump, c'est un prédateur. Fait que quand ton prédateur t'attaque, ben tu te défends. Tu veux pas mourir. Fait que t'avais pas le choix de le faire. Tout le monde est d'accord sur le fait qu'il va falloir diversifier notre économie, il va falloir travailler davantage avec nos partenaires économiques, puis ça, que ce soit dans un Québec souverain ou non, là, t'sais, avec les provinces, avec nos partenaires autres que les États-Unis. Donc, t'sais, il y a beaucoup de points de similitude entre les trois. Oui, c'est un travail qui aurait dû être fait avant, mieux collaborer ensemble à l'intérieur du Canada. Il n'est jamais trop tard pour bien faire, c'est son opportunité.
Ça me fait penser à des conseils qu'on donne comme parents des fois à nos enfants. T'sais, on veut pas que, t'sais, on veut pas d'intimidation, on veut pas que nos enfants cherchent la chicane, la bataille. Mais ce qu'on dit souvent à nos enfants, c'est laisse-toi pas faire non plus. Si quelqu'un cherche la chicane.
Ça dépend. Il y en a aussi qui ont l'approche d'un intimidateur. Si tu lui donnes pas d'attention, il va arrêter. Fait qu'il y en a qui diraient faites rien. Mais pas sûr que dans la DG. Il y a les deux visions.
Ouais, ouais. Non, c'est vrai. Bon point. Bon point, Max.
Pas sûr qu'à faire rien que Donald Trump.
Non, super. Encore une fois, autre discussion super intéressante. Cette fois-ci avec Yves-François Blanchet, chef du Bloc québécois. On fait une courte pause à 8h38. Vous êtes à Rage Against le matin, boulevard 102-1. Après la pause, on vous gâte. Regardez, les choses coûtent cher. On est en guerre économique. On a pour vous deux laissez-passer VIP pour assister au défilé de la Haute-Ville, bien sûr, du Carnaval de Québec. Jusqu'à 10.